forme de l'enseignement numéro 5.
Voilà une autre forme, une autre manifestation des gens qui souffrent du rejet, l'agression verbale. Plusieurs personnes, pour se protéger du rejet, utilisent l'agression verbale, c'est-à-dire elles utilisent des paroles désagréables, usent de moqueries pour rabaisser les autres, dénigrent, calomnient ou encore vexent. Je disais, plusieurs personnes, pour se protéger du rejet, utilisent l'agression verbale, c'est-à-dire elles sont désagréables dans leurs propos. Elles usent de la moquerie afin de toujours rabaisser les autres. Elles dénigrent, calomnient ou encore elles vexent par leurs paroles. Quelqu'un qui se moque trop des autres, vérifiez dans le fond. Parce qu'on peut tous s'amuser. À un moment donné, on peut chahuter quelqu'un. Mais remarquez que quand on chahute à telle enseigne où la personne commence à se vexer et à se blesser, il y a quelque chose. La personne essaie de prouver. Mais en fait, elle recherche. Et vous voyez, ce genre de personnes rentrent dans la catégorie des femmes qui disent « Je me sens aimée quand on me bastonne. » Si son mari ne l'a pas insultée, elle estime qu'il ne l'a pas aimée. Si sa femme ne l'a pas repris en public, il estime qu'il n'est pas aimé. Mais la Bible ne nous dit pas d'humilier nos frères. La Bible dit de nous aimer, de les servir, de les honorer. Mais quand on arrive à la dimension, on est en train de dénigrer. Ce n'est plus de l'amour et Dieu n'est plus là. Vous ne pouvez pas parler d'amour parce que Dieu incarne l'amour. Et l'amour que Dieu incarne ne dit pas de blesser. L'amour que Dieu incarne dit, il faut trouver les paroles douces. Les paroles appropriées. Tu ne peux pas dire que tu aimes et tu insultes ton partenaire en longueur de journée. Et tu prends plaisir à ne le faire que quand il y a des gens. Parce que tu veux prouver que tu es quelqu'un, mais derrière cette carapace de dur se cache quelqu'un qui a peur d'être abandonné. Parce que la personne te dit, si mon mari passe à faire rien, au moins ma famille en me voyant grande va continuer à m'aimer. Donc ce sont des actes que l'on pose pour paraître une personne grande et appréciable parce qu'on recherche d'être aimé. Pour un moins que rien. Ou encore, l'un des partenaires commence à s'exprimer. Tu as déjà haussé le ton et puis tu as déjà tout dit. Tu ne permets jamais à ton partenaire de s'exprimer ou à ta partenaire de s'exprimer. Tu es déjà devant et tu as déjà grondé. Tu as déjà menacé. Attention. Toujours en train de se moquer. Oh, regardez-moi celle-là. Regardez juste. Non. Pourquoi? Parce que quand tu dénigres les autres, tu te moques d'eux. Les autres vont dire, oh, tu es fort, tu es fort, tu es fort. C'est ce petit mot-là, tu es fort. C'est quelques secondes d'ovation qui te fait. Mais est-ce que Dieu t'a appelé à vivre heureux juste pour quelques secondes? Vous voyez jusqu'où les gens sont capables d'aller pour être aimés. Mais tout ça est dû à quoi? Au péché. Parce qu'on a simplement désobéi. C'est là où tout a commencé. Faisons attention. Le Congo, ça qu'il y a au Gabon, et ça je vais être direct avec vous, si les Gabonais sont devenus des gens qui parlent beaucoup, c'est parce que les Gabonais se sentent rejetés. C'est pourquoi le moindre acte qui est posé est interprété. Parce qu'on se dit, pourquoi moi je serai mis de côté et cette personne ne sera pas mise de côté? Alors on fait tout pour dénigrer la moindre personne qui se démarque. Ne prenez pas à la légère le Congo-Sa qu'il y a au Gabon. C'est un esprit maléfique. C'est la preuve que nous avons des problèmes de rejet. Parce que ceux qui souffrent de rejet sont bavards. Ils parlent beaucoup et se plaignent constamment. Et le Congo-Sa du Gabon, ce n'est pas généralement pour raconter une histoire vraie. C'est déjà pour raconter une histoire fausse. Donc on passe notre temps à dénigrer. Quelqu'un essaie de prospérer. Oh, toi aussi, ne t'inquiète pas, nous-mêmes on connaît. Il est déjà dans la rose-croix. Il est parti toucher l'interdit. Il a déjà fait ceci. Pourquoi? Parce qu'on se dit, il ne peut pas réussir et moi rester dans la situation dans laquelle je suis. Premier élément, je dénigre. Deuxième élément, je calomnie. Donc je prends ça et je vais raconter à tout le monde. Et troisième élément, je me plains. Pourquoi c'est seulement lui? C'est la preuve. C'est la preuve de votre sentiment de rejet. Le Congo-Sa au Gabon illustre le sentiment de rejet dont souffrent tous les Gabonais. C'est pourquoi on ne supporte plus la réussite des autres. Mais ce qu'on oublie, c'est que la réussite d'un destin ne passe pas par les autres, ça passe d'abord par soi. Et c'est quand nous-mêmes, nous allons démontrer qu'on peut être quelqu'un qu'on peut aider, alors on se fait aider par les autres. Mais pas avant. Tu n'as rien à manifester, mais tu veux que les gens viennent vers toi. Tu viens avec un esprit de pitié et tu veux que les gens te regardent comment? Les gens ne te renvoient que l'image que tu leur as présentée. Si tu te présentes comme un rigolo, les gens te prendront comme un rigolo. Si tu te présentes comme quelqu'un de sérieux, les gens te prendront au sérieux. Et quand tu leur parleras de tes projets, les personnes réagiront. Mais vous êtes assis dans votre coin. Vous ne bougez même pas d'un pouce et vous voulez que tout soit fait. La Bible dit, préserve ta langue du mal et t'élève des paroles trompeuses. Et elle dit entre autres, Proverbe 14, 23, tout travail procure l'abondance. Donc ça ne sert à rien de calomnier. C'est le travail qui procure l'abondance. Mais les paroles en l'air mènent à la disette. Après avoir fait du Congo ça, que t'arrive-t-il? Tu n'es pas toujours dans tes mapanes pour certains. Tu n'es pas toujours dans la même maison, sur le même banc ou le même fauteuil, au même endroit. Ça a changé quoi? Donc au lieu de perdre ton temps à bavarder, commence à réfléchir sur comment t'en sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Tu travailles, tu n'es pas capable de faire une épargne. Ne me dites pas que ce sont les autres qui t'empêchent de faire une épargne. Tu as des enfants, tu n'es pas capable d'être avec eux et de les élever. Ne dis pas que c'est le voisin d'à côté qui t'empêche de les élever. Donc ne le dénigre pas. Reconnais que tu n'arrives pas. Et demande à Dieu de t'aider. Sinon, voisin, comment tu as fait? Mais ne commence pas à dire, il a touché l'interdit. Tout le monde au Gabon ne prospère pas en passant par l'interdit. Il est vrai que certains passent par l'interdit. Maintenant, la personne-là, quand elle va devenir, ou pas forcément riche, mais prospérée, quand on va lui dire à elle, tu as touché l'interdit, regardez sa réaction violente. La Bible dit encore, dans Ecclésias 5, dans une certaine version, c'est 6, et d'autres versions, verset 5, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Pourquoi? Parce qu'on veut être aimé, on a besoin de parler. Ce n'est pas nécessaire. Comme l'a dit le passage plus haut, les paroles en l'air nous mènent à la disette. Il n'y a rien. C'est-à-dire, les paroles en l'air nous mènent à la disette. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas. Seul le travail procure l'abondance. Et quand on parle de travail, pas forcément le travail séculier, le travail de sa propre personne, le travail de son âme, le travail à développer la personnalité qu'on est, à changer ce qu'il y a à changer pour que les personnes nous acceptent tels que nous sommes. Et enfin, Éphésiens 5, 4 dit qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Une autre manifestation, la manipulation et le contrôle. Nous connaissons tous l'histoire de Samson et Dalila, juge 16. Samson, à un moment donné, a été élevé juge en Israël. Et les Philistins en avaient marre que Samson passe son temps à les battre. Alors, ils ont appris un jour que Samson était amoureux. Et ils sont allés Dalila et ils lui ont dit une chose. J'aimerais que nous ouvrons notre Bible dans Juges 16, verset 4. La Bible dit, « Après cela, il aimait une femme dans la vallée de Sourek. Elle se nommait Dalila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 sicles d'argent. » Samson aimait cette femme et je crois qu'elle a fini par l'aimer. Mais la peur d'être battue, la peur d'être rejetée, parce que les Philistins ne supportaient pas l'idée d'être rejetés, d'être pris comme des moins que rien, parce qu'ils estimaient que tout ce qu'ils avaient, tous les atouts qu'ils avaient, l'armée qu'ils avaient, ne pouvaient pas être battus par des simples paysans, comme les Juifs. Alors ce sentiment de rejet-là les a amenés à utiliser Dalila pour manipuler Samson afin de découvrir ce qui faisait sa force. Beaucoup, nous utilisons la manipulation. Vous savez, manipuler veut dire en fait diriger, orienter, guider, mais de façon pernicieuse. Pourquoi? Pour un gain personnel. C'est différent de ce qu'on appelle influencer et dominer. Parce que dominer, c'est diriger, guider, mais pour le bien de la communauté. Par contre, la manipulation, on fait la même chose, mais pour un gain personnel, en utilisant des stratagèmes pernicieux. Tu veux aimer, tu manipules. Vraiment, si tu m'aimes, vraiment. Et ça, nous le lisons dans le verset 15 du même chapitre. Écoutez, Dalila, elle lui dit, mais comment peux-tu dire que je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà trois fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré. D'où vient ta grande force? Vraiment, chérie, si tu m'aimes, donne-moi d'abord un enfant. Chérie, si tu m'aimes, on vit d'abord ensemble et puis on verra plus tard. D'où l'histoire de nos mères qui font 30 ans, 40 ans de vie dans le concubinage chronique et qui, au bout de quelques années, on leur dit basta. Quelqu'un qui se fait beau et qui fait tout parce qu'il sait que la belle jeune dame a du fric et je vais la manipuler. Parce qu'on est incapable, on a peur d'être rejeté, d'être mis parmi les gens marginaux. Si encore vous êtes marginal, ça dépend de qui a décidé de votre marginalisation. Mais on fait tout, on manipule. Et la manipulation est souvent représentée par tous les éléments que nous avons lus au-dessus. On devient hypochondriaque. On devient malade. On joue à celle qui s'apitoie toujours sur soi pour que quelqu'un soit toujours là. On fait tout. On utilise toutes les stratégies nécessaires pour attirer l'attention, pour attirer. On manipule. On manipule. Est-ce biblique? En tout cas, chérie, si tu veux que, tu dois d'abord me donner. Et ça, c'est un art féminin. Je n'ai pas besoin de dire la suite. Trois points de suspension. C'est de la manipulation à outrance. Et on dit qu'on aime. Non, ce n'est pas juste. Si tu veux ça de moi, il faut que tu fasses. On le fait même avec Dieu. C'est-à-dire, on est tellement rentré dans le concept de la manipulation qu'on n'a même pas plus peur de chercher à manipuler Dieu. En tout cas, Seigneur, si tu veux que je travaille pour toi, tu as intérêt à faire. Ah bon? On veut contrôler. On développe un contrôle sur la vie de quelqu'un. Parce qu'on veut que cette personne soit à nos pieds. Parce que cette personne étant à nos pieds, elle nous donnera tout ce que l'on veut. Donc en fait, c'est un degré, le désir d'être aimé, la peur d'être rejeté est tel que les personnes deviennent machiavéliques au point de tout faire pour mettre quelqu'un sous ses pieds. De façon à ce que ce qu'on attend d'elle, on peut l'exiger. Et c'est là où je... En tout cas, moi je le fais marcher. En tout cas, je la fais marcher. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Parce que derrière le fait de le faire ou de la faire marcher, se cachent des larmes. Parce que dans le fond, on veut toujours être désiré de façon spontanée et non pas de façon obligée. Pourquoi alors se faire manipuler? Pourquoi vouloir contrôler la vie de quelqu'un? Pourquoi? C'est là où vous voyez certaines sœurs. Oh, ma sœur, pardon. Et c'est là où on doit faire attention pour ceux qui sont mariés. Ou pour les sœurs en crise qui n'ont pas de caractère, ou les gens de personnes qui exposent toujours leur vie conjugale à l'extérieur. Vous ne savez pas si la personne qui vous donne des conseils ne souffre pas de rejet. En tout cas, il t'a fait ça, ah, laisse-le tomber. Ah bon? C'est Dieu qui te l'a dit. Quand tu le laisses, ou tu la laisses, ou tu le laisses tomber, sur quelle base? Pourquoi? Parce qu'on veut avoir un contrôle. En général, la famille africaine utilise la manipulation et le contrôle pour atteindre ses objectifs. Pourquoi? Les gens sont considérés en fonction des familles, ce n'est pas mauvais. Mais quand on se rend compte qu'un de nos enfants arrive à rentrer dans une famille prestigieuse, on sait déjà en tant que famille africaine qu'on pourra se prolonger au travers de cet enfant et que cet enfant est déjà un investissement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On sait que si notre enfant aime, le partenaire est pour nous un obstacle. Alors on commence à utiliser la manipulation familiale pour atteindre nos objectifs. On contrôle. On fait exprès d'envoyer un frère, une sœur ou une mère trop possessive va contrôler l'enfant pour que tout ce dont la famille a besoin, elle l'obtienne. C'est pourquoi vous entendez certaines mères qui disent « Ah, tu n'es pas la femme, on va chercher quelqu'un d'autre. » Ah bon? Comment ça veut déjà dire, hein? Quand il y a un esprit de contrôle, il y a un but que cette famille recherche avec leur enfant. Et si l'enfant n'a pas les yeux ouverts pour se rendre compte que lui-même, il est manipulé, il va obéir sans s'en rendre compte et après il pleurera. Parce qu'il se rendra compte qu'on ne l'utilise que pour ce qu'il est capable de donner et non pas pour ce qu'il est. Mais très souvent, il est très tard quand la personne le réalise. C'est souvent quand elle est au bas de l'échelle. Et là, le sentiment de rejet se développe davantage. Et cette personne, au lieu de grandir, va s'enfoncer. Et pour certains hommes, ils vont devenir des coureurs de jupons. Ils ne vous diront jamais pourquoi ils ne veulent pas se marier, mais c'est parce qu'ils ont déjà goûté au contrôle familial. Alors, puisqu'il a vraiment aimé sa femme et qu'il a perdu, il s'est dit, si j'aime encore quelqu'un, la pauvre fille va subir la même chose. Il y a des choses qu'un homme ne peut pas vous dire. Mais il va faire, qu'est-ce qu'il va faire? De femme en femme. Il va devenir un don juan. Vous allez dire, mais c'est pas possible, pourquoi il ne se casse pas? Vérifiez. Vérifiez dans le fond. Parce que tout homme normalement constitué a toujours envie de faire une famille. Mais quand un homme n'arrive pas à faire des familles, c'est que soit il y a un vice, soit il y a vraiment un péché particulier, soit derrière se cache un sentiment de rejet. On veut plus s'investir pour sa famille. Et on vit au jour le jour. Vous avez une autre manifestation, le mensonge. Ici, je ne parle pas du mensonge qui dit « Tu as fait ça ?»« Non, je n'ai pas fait alors qu'on a fait. » Non, je veux parler ici de la dissimulation. Les personnes qui font semblant d'être pour avoir. C'est l'art de feindre pour obtenir. Par exemple, vous avez, je vous donne un exemple concret, les hommes qui ont des attitudes macho et prétentieuses. Ils vont jouer au dur. Si leurs épouses viennent dans leur vie pour essayer de les aider et comprendre, ils vont dire non. Ils vont développer une telle barrière qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas besoin de leur partenaire. Ils en ont besoin. Mais c'est de la dissimulation. Et comme ça, quand ils vont se positionner en homme dur, madame sera toujours là en train de quémander son entrée dans sa vie. Et là, il se sent aimé. C'est la même chose, hein, les femmes le font. Elles jouent au dur. Il est toujours en train de dire, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Et là, elle se sent quelqu'un. Il y a des fois où cette forme de dissimulation-là, elle est consciente. Il y a des fois où elle n'est pas consciente. Mais c'est de la dissimulation. Et c'est ce qu'on utilise généralement pour ne pas être rejeté. On fait toujours semblant. Toujours semblant. Chérie, tout va bien, tout va bien. Yeah, it's okay. C'est bon. La personne vient vous l'insulter. Vous sentez sur le visage que la personne est atteinte. Vous lui dites, est-ce que je t'ai vexé? Non, ça va, toi aussi. Ce n'est pas un petit truc comme ça qui va me déstabiliser. Toi aussi. Dieu est là. Ils sont toujours comme ça. Quand on les entend, ils n'ont jamais peur de rien. Ils maîtrisent toujours. Je les appelle les maîtriseurs. Ils maîtrisent. Ils maîtrisent toujours les situations. Mais derrière cette maîtrise se cache de la dissimulation. Je veux être aimé. Je ne veux pas que tu me lâches parce que tu as vu mes défauts. Mais je veux que tu m'aimes avec mes défauts et qu'ensemble, nous corrigions ces défauts. Il y a d'autres, ils ne reprendront jamais leurs partenaires. Ils ne reprendront jamais leurs enfants parce qu'ils ont peur que ces personnes les rejettent. C'est ce qui explique dans certains couples les divorces. Ta femme a mal fait, tu n'as pas la force de lui dire qu'elle a mal fait. Tu as peur de te confronter à elle, tu as peur de que vous choquer, vous entrechoquer. Parce que tu dis, si je lui dis, elle va partir. Mais attends, mes papas, tôt ou tard, tu vas péter les plombs. Parce qu'on est humain. Tôt ou tard, tu vas craquer. Et comme tu vas craquer tôt ou tard, la vérité finit toujours par sortir. Mais au moment où elle sortira, au lieu d'arranger, elle va créer un climat de perte de confiance. De trahison. Donc tu n'auras pas arrangé, tu auras gaspillé. Et là, ce que tu crains va t'arriver. Et ce que tu redoutais le plus se présente à toi. C'est pourquoi la Bible nous dit de marcher dans la vérité. De Corinthiens 4, 2 dit, nous refusons les cachotteries honteuses. Nous ne nous conduisons pas avec fourberie et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Alléluia. Et la Bible dit en Éphésiens 5, 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Un autre, je vais aller assez vite parce que je suis déjà en train de prendre sur le temps. Les pseudo-principes, c'est court. Vous voyez des gens qui ont tellement souffert, vous allez les entendre. À partir d'aujourd'hui, plus personne, et ce sont des principes qui ne disent pas, aucun homme ne marchera sur ma tête, aucune femme ne me fera plus ça. On va voir avec Marin plus ça. C'est-à-dire ils édictent des principes. Pourquoi je les appelle pseudo? Parce qu'en fait, en général, ce sont des faux principes, des principes qui n'ont aucune base réelle. Bon, je dis pas, quand je dis base réelle, c'est pas qu'il n'y a pas eu un événement qui les a conduits là. Mais en fait, ces principes ne leur serviront à rien, sinon de leur faire mal. Et ils sont là tranquilles. Tu ne ris pas. Non, dans mes principes, j'ai décidé que. Plus jamais. En tout cas, moi, je suis une femme, un homme de principes. Les pseudo-principes, qui sont des secrets internes et avec lesquels nous luttons en général lorsque la parole de Dieu nous dit, là, tu es dans le fou. Et nous avons l'autoprotection. Et l'autoprotection, en général, c'est la colère, l'agression, l'angoisse, le fait d'éviter les gens. Il y a des gens qui sont tout le temps en colère, les susceptibles, là. Moi, de Dieu, ah, tout ça, la peur d'être rejeté. On réagit, on crée des murs. On a peur. Non, pour éviter d'être, il y a d'autres, pour éviter, on rentre dans, c'est-à-dire, pour ceux qui ne font pas attention, vont rentrer dans l'agoraphobie, mais il y a d'autres qui vont se mettre au milieu. On évite les personnes. Tu sais que la personne t'a fait mal, comme tu ne peux pas aller partir, tu l'évites. Ce qu'on appelle vulgairement hypocrisie. Vous êtes hypocrite. D'autres, c'est la colère. On est toujours en train d'être en colère. Ou la bagarre. On est toujours en train de se battre. Parce que derrière cela, on veut être aimé. Mais la Bible dit, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Et la Bible dit encore en Colossiens 3, 8, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Et le dernier élément, c'est le perfectionnisme. Les personnes parfaites. Et je termine par là. Une attitude qui nous permet de reconnaître de loin quelqu'un qui souffre du sentiment d'être rejeté, c'est que cette personne, en général, fait tout pour être parfaite. Tout pour elle doit être parfait. Si ce n'est pas bien fait, c'est différent de ceux qui aiment l'excellence. Parce qu'il y a des gens, en fait, la perfection, c'est aimer l'excellence. Mais la dimension dans laquelle on l'utilise pour ceux qui souffrent du rejet, c'est autre chose. On l'utilise, c'est-à-dire on va développer maintenant un comportement dont on va dépendre. Par contre, l'excellence, c'est je fais, bon, maintenant si ce n'est pas réussi, je vais voir pourquoi ça n'a pas réussi et je vais faire un effort. Donc, ils ne sont pas tenus du temps, ils ne sont pas tenus de l'approbation des autres. Par contre, ceux qui sont perfectionnistes, à cause du sentiment de rejet, tiennent compte du temps, tiennent compte de la vie des autres, tiennent compte de tout et disjonctent. Dès que la chose ne se fait pas comme il se devrait, parce qu'il s'est dit, il va ou elle va me rejeter dès qu'elle verra cette petite imperfection. Donc voilà quelqu'un qui passe son temps à être stressé. Tout le temps c'est comme ça. On essaie, il faut que je prépare mieux, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, il faut... Non, à quoi? La table doit être bien faite. Si je ne fais pas bien, il va, ne va pas m'aimer. Et quand il va me gronder, ça veut dire que. Quand elle va me gronder, ça veut dire que. Faisons attention. Vous ne pouvez pas être parfait. La perfection, selon Dieu, c'est la maturité. Aucun homme ne peut être parfait, sinon Dieu lui-même. Mais Dieu nous dit, c'est vrai, soyez parfaits comme votre Père est céleste et parfait. C'est vrai, nous devons être parfaits. Mais selon le concept divin, la perfection, c'est aller avoir de la maturité. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas le devenir d'un coup. Vous le deviendrez au fur et à mesure. Mais cette perfection-là ne va pas dans la vision de chercher à être aimé. Cette perfection va dans la vision non seulement d'aimer aussi les autres, mais pour recevoir en retour l'amour dont vous avez besoin. Donc faisons attention. La perfection n'est pas toujours ce qu'on pense. Comme je l'ai dit, la perfection pour Dieu, c'est la maturité. Nous voulons réussir, nous voulons être aimés de nos partenaires. Le partenaire ou la partenaire ou le frère, la mère, le père ne sont pas parfaits eux-mêmes. Donc c'est inutile d'être trop parfait. Ce n'est pas ce qui va les amener à vous aimer. Parce que si on ne voit les choses que d'un point de vue humain, ils ne vous aimeront pas parce que vous êtes parfait. Parce qu'en général, ceux qui ne sont pas convertis aiment pour ce que vous leur donnez et non pas pour tout ce que vous faites autour. Pour eux, ce sont des artifices. Mais vous, si vous voulez être quelqu'un de bien dans votre peau, il faut que vous compreniez que la perfection pour Dieu, c'est Dieu qui nous la donne. La Bible dit, ce que vous avez commencé, Dieu, lui, il nous aidera à l'accomplir et à l'achever. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas seul. Et donc, faisons l'effort de laisser Dieu nous aider à devenir. C'est vrai qu'on craint, mais laissons Dieu faire les choses. Et Dieu traitera avec la personne de qui nous recherchons d'être aimés et de qui nous avons peur d'être rejetés. Débarrassons-nous de toutes ces stratégies que nous accomplissons pour ne pas être rejetés.
La Bible dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Évitons. Dieu nous aime. Et Dieu nous a déjà tout mis à notre disposition pour que nous soyons réconciliés avec lui. Il a envoyé Jésus qui, lorsque nous acceptons ce qu'il a fait dans la croix, nous a revêtus de son vêtement, nous a justifiés, nous a à nouveau donné notre position de Dieu, nous a à nouveau réhabilités. Et donc, Dieu nous aime tel que nous sommes. Il sait que le péché nous a amenés à adopter certaines attitudes. C'est pourquoi il envoie le Saint-Esprit dans notre vie, afin de nous aider à ôter cela. Mais ce n'est pas pour autant qu'il nous abandonnera, parce que Dieu ne vit que pour nous. Il ne vit pas pour autre chose. Dieu ne vit que pour nous. Même lorsqu'il nous a donné de régner sur la terre, il vit pour que nous régnions convenablement sur la terre. Il fait tout. Il met tout ce qu'il peut pour que nous arrivions. Donc, peu importe ce que nous faisons, peu importe l'erreur que nous faisons, Dieu continuera à nous aimer. Maintenant, ne faisons pas des erreurs pour le plaisir de le faire. Parce que si quelqu'un pêche volontairement, c'est autre chose. Mais si c'est par inadvertance, par faiblesse et par défaut, Dieu sera toujours là. C'est pourquoi il peut dire dans Jean, il dit, si tu as péché, il est fidèle et juste de te pardonner et de te purifier de toute iniquité. Si et seulement si aussi tu confesses ton péché. Dès que tu l'as confessé, Dieu a réglé ton problème. Ne nous soumettons plus au joug de l'esclavage satanique qui nous fait croire que nous ne sommes pas dignes d'être aimés tels que nous sommes. Et je vous donne un exemple concret. Vous êtes mariés aujourd'hui, pour certains. Vous avez des enfants. Malgré vos défauts, ne vous aiment-ils pas? À plus forte raison, Dieu. La peur du jugement peut nous perdre. La peur d'être aimé va nous amener à faire des erreurs qui peuvent être fatales. Mais aimons Dieu. Faisons-lui confiance. Et lui, il fera le reste. Que Dieu vous bénisse.
Pour la suite de votre étude, veuillez insérer le CD numéro 10. En espérant que ce message vous a été en bénédiction, nous vous encourageons à vous procurer le catalogue de nos productions audiovisuelles au numéro suivant 00 241 07 29 68 47 et au 00 241 07 39 82 79 ou à l'adresse email suivante missionjcr@yahoo.fr. Merci et que Dieu vous bénisse.